CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
À qui le tour, bonjour.
Salut Rémi.
Salut Aurélien, salut tout le monde. Le mag du Tarn-et-Garonne s'intéresse aujourd'hui au Requiem de Mozart qui sera joué jeudi à 21h et samedi à 18h dans la cathédrale de Montauban par le chœur de la cathédrale accompagné de quatre solistes du Capitole et de l'orgue de Sylvie Pérez, professeur d'orgue au conservatoire de Montauban sous la direction d'Henri Das. Et on a le plaisir de recevoir Henri Das avec qui on aura une conversation dans quelques instants. Henri Das, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour venir nous présenter ce concert. Avant cela, on va retrouver comme d'habitude Paul Burgan pour la toponymie du Tarn-et-Garonne. Et puis cette émission ensuite continuera avec une interview de Lisa Echen en compagnie d'Aline Hameau et Lise Stanley pour Festilite, le festival littéraire de Pariso qui se déroule le week-end prochain. Mais d'abord, Paul Burgan, la toponymie du Tarn-et-Garonne.
Bonjour à tous. L'occitan broc désigne une branche, un bâton pointu, et un dérivé féminin, un broc, très usité. Le nom de Brocou, ou Brocou, a été donné à un chemin situé du côté du Ramirou. C'est au pied de la colline du Faux que se situe Cabarieux, qui est aussi le nom du ruisseau voisin. Les formes anciennes indiquent bien entendu la forme occitane cabariu, écrit C-A-V-A-R-I-U, composée de l'adjectif cabo, C-A-V-A, issu du latin cavus, qui signifie creux, et du nom riu, R-I-E-U, issu du latin rivus, qui désigne un cours d'eau. Le relief du secteur justifie cette appellation de ruisseau creux. Je reprends ici une famille de mots dont j'ai partiellement traité. Le latin capra a donné l'occitan cabro, qui prend aussi la forme crabo, avec le sens de chèvre. Il existe plusieurs dérivés de ce nom, parmi lesquels cabrol, issu du latin capreolus, qui désigne un chevreuil, et est devenu un anthroponyme très fréquent. Il s'applique à un domaine situé dans le secteur de la rue du Ramirou. La variante Cabirol se trouve à Pêche-Boyer. En 1372, un nommé Juan Cabirol avait des propriétés dans ce secteur. Près de Bressol, on trouve aussi Cabrit, dont le sens de chevreau s'appliquait sans doute aux propriétaires. Enfin, il faut ajouter le lieu-dit Las Cabrieros, qui peut indiquer une profession chevrière, mais aussi plus probablement un élevage de chèvres. Du côté de Pêche-Boyer, on a le toponyme Cadour, qui a été manifestement transporté par une famille originaire du village de la Haute-Garonne ainsi nommé. À Bas-Pays, c'est le village lotois de Cajarc qui a fourni le nom de lieu-dit. Le toponyme Loucable se trouve à Bas-Pays. Ce terme existait déjà en occitan ancien, mais avec le sens de gros cordage. À la semaine prochaine.
Vous retrouvez Paul Burgan chaque lundi un peu après 17h, chaque mardi un peu après midi et quand vous le souhaitez sur cfmradio.fr.
CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Henri Das, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef de chœur de la cathédrale de Montauban.
Oui.
Présentez-nous ce chœur.
Alors c'est un chœur qui s'est créé il y a une quinzaine d'années. Enfin l'idée c'était de monter un petit groupe qui chante pour la messe de minuit. Voilà, c'était ça l'idée. Et puis comme toujours, le groupe se monte, ça réussit et après on a envie de continuer. Donc on a continué en se musclant un peu, c'est-à-dire en recrutant. Et puis on se donne un objectif qui était de monter toutes les œuvres, enfin si possible les œuvres du répertoire sacré, ce qu'on appelle le répertoire sacré, qui a été établi au cours des siècles. Et qui est rarement donné dans des conditions spirituelles, enfin au sens en opposant au sens laïque, si vous voulez. Mm-hmm. Par exemple, le Requiem de Mozart, c'est souvent donné dans des salles de concert, et c'est interprété comme une symphonie ou comme normal, alors qu'en fait, c'est une messe des morts. Donc il nous a semblé que faire ce genre de répertoire en sachant d'abord qu'est-ce qu'on disait, c'est-à-dire faire en sorte que les choristes savent ce qu'ils disent, ce qui est rare dans les chorales, et en essayant de faire comprendre au public ce qu'on disait, ce qui est encore plus difficile, mais ce qui est un peu l'objectif de ce chœur. Voilà. Donc on fait des présentations qui vont vers la compréhension par le public de l'œuvre et de pourquoi le compositeur a composé cette œuvre sur ses paroles. C'est un peu ça notre objectif.
D'accord. Voilà. Et qui forme le chœur ? Il y a combien de personnes, combien de chanteurs aujourd'hui ?
Une cinquantaine.
Ouais.
Cinquantaine.
Hommes, femmes ?
Ça se répartit bien. Bon, il y a toujours des difficultés pour les hommes. Mais enfin, ça va, je ne me plains pas, on a ce qu'il faut. Actuellement. Mm-hmm. Non, voilà. Mais c'est toujours, vous savez, l'effectif d'un chœur, c'est toujours quelque chose de très instable.
Ouais.
Ça va, ça vient et...
Vous
maîtrisez pas bien.
Vous faites des auditions pour essayer de maintenir aussi une certaine qualité de chant.
On fait une mini audition à l'entrée pour être sûr que les gens qui rentrent ont au moins une voix juste.
Ouais. Voilà.
Mais je ne demande pas plus. Non, parce que c'est un aussi. Bon, si vous voulez, il ne faut pas être trop prétentieux. On n'a pas les moyens de faire un chœur de haut niveau. Donc l'idée, c'est aussi de permettre à tout le monde, tous les gens qui ont envie et qui chantent un peu juste. D'aborder, de connaître tout ce répertoire qui quand même qui constitue quelque chose que chacun devrait connaître, même quelle que soit sa religion, je dis.
Vous répétez souvent avec le chœur de la cathédrale?
On répète tous les lundis soirs pendant 2 heures.
D'accord.
Ouais.
Et donc là, à quel moment vous avez choisi le requiem?
C'est-à-dire chaque année, on essaye de monter un programme qu'on donne en fin d'année ou en début d'année, comme maintenant. Et cette année, c'était le requiem de Mozart, c'était un peu... la première fois. Enfin, j'étais venu vous voir il y a quelques années parce qu'on avait fait la création de Haydn. Hein, c'était aussi un gros coup quand on montait. Voilà. Là, Requiem de Mozart, c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand on s'y attaque parce que tout le monde connaît ou croit connaître. D'ailleurs, on voit bien, ça attire un public très très nombreux. Et puis, on a dans l'oreille, ou on l'a pas, mais des interprétations prestigieuses, hein, qu'on entend, il suffit de mettre YouTube, il y a au moins 15 interprétations du Requiem de Mozart. Donc voilà, il faut faire attention quand on aborde cette affaire de pas être trop insuffisant et de pas décevoir
donc,
le public.
Vous êtes en train de nous dire que le chœur de la cathédrale de Montauban a la pression pour les deux concerts que vous donnerez.
Vous avez très bien compris.
Oui. Jeudi à 17, le jeudi 17 à 21h, je le redis. Samedi 19 à 18h, on va essayer de se remettre tous là dans l'oreille quelques mesures de ces requiem pour savoir exactement de quoi on parle. Ridas, vous nous l'avez dit, il y a de la pédagogie dans le concert que vous allez proposer, dans les deux concerts que vous allez proposer. Effleurons un peu le sujet, si vous voulez bien, ensemble. Donc, c'est un requiem, c'est une messe...
C'est une messe des morts.
Des morts.
Absolument. C'est une messe des morts qui a été composée par Mozart sur la fin de sa vie. C'était une commande, en fait. Il y a toute une légende autour de ça, parce que ça a été commandé par quelqu'un qui était habillé en noir, masqué, qui donnait pas son nom. Enfin, bon, il y a toute une légende autour de cette affaire. En fait, c'était une commande, et Mozart l'a commencé, puis après il est passé à la flûte enchantée, qui l'intéressait beaucoup plus, et puis après il a composé un concerto pour clarinette. Il a un peu laissé tomber ça, et puis finalement il l'a repris parce que le client insistait pour l'avoir rapidement, et c'est à ce moment-là où il était très malade, puisqu'il est mort quelques 2 mois après. Et il a commencé à penser à ce requiem autrement que comme une œuvre de commande. Il l'a pris un peu à son compte.
Oui.
Et malheureusement, il n'a pas eu le temps de le finir, puisqu'il en a fait à peu près la moitié. la moitié, un quart, il l'a esquissé, et le dernier quart, et pas de lui, un de ses élèves, parce que sa veuve, qui avait vraiment besoin d'argent, a fait finir le requiem par un élève pour le livrer au client.
Pour le livrer au client.
Voilà. Donc, c'est voilà un peu l'histoire du requiem de Mozart qu'on explique plus profondément dans le programme.
Elle n'a pas été jouée à son enterrement, à lui
Son enterrement s'est fait dans la discrétion la plus absolue, puisqu'on dit bien qu'il est parti... Il est parti au cimetière avec un simple chien qui suivait son cercueil. Hein, et on a mis son corps dans la fosse commune. Vous voyez ?
Alors, des œuvres comme celle-là, souvent, reprennent des passages bibliques.
C'est le texte de la messe de Requiem.
C'est ça.
Alors, il y a des passages bibliques, parce que, bon, si vous voulez, la messe de Requiem, il y a un certain nombre de phases qui sont les phases de la messe. Vous avez l'introïte, le kyrie. Et puis il y a ce qu'on appelle la séquence, c'est-à-dire c'est des extraits de psaumes qui se trouvent avant le sermon, avant les lectures. Ensuite il y a l'offertoire qui vient donc après le sermon et les lectures. Ensuite il y a le sanctus, benedictus, et puis l'agnus et la communion et la fin. Et alors en fait un peu l'originalité qu'on va faire, nous, si vous voulez, c'est que ces différentes parties ne s'enchaînent pas automatiquement dans le cours d'un office. Or en concert, très souvent, on enchaîne tout ça, comme si c'était la même.
Ah oui, normalement on le joue par épisode, quoi.
Oui, et dans les concerts, très souvent, on enchaîne, et non seulement on enchaîne, mais en fait, on fait des effets musicaux du fait de l'enchaînement. Par exemple, la séquence, on enchaîne directement derrière le kyrie, alors qu'en fait, il se passe des choses, là. Ça n'est pas fait pour être enchaîné. Donc là, pour essayer de maintenir un petit peu l'ambiance voulue, on introduit entre les différentes parties qui normalement ne devraient pas se suivre, on introduit des motets, des motets de la Renaissance, a cappella, qui sont sur ce thème religieux de la mort.
Voilà. D'accord.
Et au début, pour introduire, pour essayer aussi de mettre les gens dans l'ambiance, on fait une musique qui s'appelle Chant de funérailles, qui de Brahms, qui est un truc superbe, qui est rarement donné, et qu'on va faire en introduction au concert. Et tout ça va se faire d'une seule foulée, si vous voulez, sans que les gens applaudissent entre les temps. On essaye de maintenir une tension. Hein. Voilà, ça, on y tient beaucoup, et j'espère que ça va marcher.
Il y a des codes, hein, justement, là aussi, concert classique. Quoi. C'est-à-dire qu'on n'applaudit pas forcément tout le temps entre les morceaux, faire attention. Est-ce que ça, vous le rappelez aussi
On le rappelle au début, que comme là, on va faire un peu... En général, les gens n'applaudissent pas au milieu du requiem de Mozart. Hein, parce que, bon, on le sait, on n'applaudit pas. Mais là, comme en plus, on va mettre ces morceaux, ces petites pièces-là qui vont interrompre un peu le discours traditionnel, on va les prévenir quand même qu'il faut qu'ils attendent la fin. Quoi.
Oui, parce que, encore une fois, vous faites œuvre de pédagogie, il va y avoir des gens qui... Il y a des scolaires, j'ai vu, hein, aussi, qui sont invités.
Ah ben, c'est amusant, parce qu'on a eu des réservations là, de gens qui viennent et qui amènent leurs enfants, en disant, parce qu'ils voient que c'est gratuit pour les enfants, donc ils en profitent, et ils disent, c'est l'occasion de faire découvrir un concert de musique classique aux enfants.
Alors, s'il a 2 ou 3 ans, laissez-le à la maison quand même, prenez une nounou, parce que c'est terrible quand il se met à pleurer quand même au concert.
Non, c'est au moins des scolaires, disons, collégiens.
Hein. Ok, c'est Sylvie Pérez qui sera à l'orgue. Vous avez l'habitude de travailler avec cette professeure d'orgue du conservatoire?
Non, c'est la deuxième fois, parce qu'on a travaillé. Mmh. On a fait une petite avant-première il y a quelques temps avec Illus, mais c'est la première fois qu'on travaille avec elle. En fait, l'originalité, c'est que normalement, le requiem, c'est avec un orchestre. Mais là, à Montauban, un orchestre, il faut le trouver, et c'est extrêmement coûteux, les orchestres ici, ils sont plus chers qu'à Paris. l'économie du concert n'y tiendrait pas, surtout qu'on est obligé de maintenir les places dans un tarif correct, 15 euros, c'est pas très cher. Donc on fait ça avec une version, une réduction à l'orgue. Mais pour ça, il faut trouver un organiste assez doué et un orgue suffisant pour avoir toutes les facilités de couleurs et de jeux différents. Donc là, on était obligé de louer un orgue carrément à Toulouse, un orgue numérique qui a l'avantage...
Ah oui, c'est pas l'orgue de la cathédrale.
L'orgue de la cathédrale est complètement inadapté pour ce genre de choses. C'est un orgue baroque, il n'ira pas du tout.
D'accord. Hein?
Donc on loue cet orgue qui a l'intérêt donc aussi d'avoir on peut programmer les jeux à l'avance, si vous voulez. C'est l'avantage des orgues numériques. C'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton et clac, tout se met en place. Donc on peut mettre une variété de jeux, tout au long du concert selon les morceaux qu'on fait.
D'accord.
Donc voilà.
On est en train de parler du Requiem de Mozart qui sera joué donc à la cathédrale de Montauban jeudi soir à 20h45, samedi 19 octobre à 18h, 15 euros l'entrée, sous votre direction donc Henri Das. Merci d'être venu
c'est moi qui vous remercie.
Nous en parler. Une cinquantaine de choristes, dont quatre choristes du Capitole. On va les citer: Christine Giusiti, soprano, Catherine Alcovero, alto, Carlos Pérez Mancilla, ténor, et Christian Lovato, basse. Merci d'être venu en parler.
Merci.
Au revoir.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs, CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Le festival littéraire de Paris-Ossé le week-end prochain, c'est le sujet que nous propose Lisa Echen dans quelques instants.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Dimanche 27 octobre, la Guépi vous accueille pour la fête de la châtaigne. Au programme, toute la journée, une centaine d'exposants et d'animations assurées par l'Espérance Rignacoise. Vente directe de châtaigne, marché de produits du terroir, grillée géante de châtaigne, crêpes, jus de pommes pressées sur place, jeux géants en bois gratuits, exposition pommes châtaignes noix et rando pédestre de 7 ou 14 km. La fête de la châtaigne, dimanche 27 octobre à la Guépi. Restauration sur place, entrée gratuite. Renseignements à l'office de tourisme ou sur tourisme.laguépi@orange.fr.
Le vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre, le CAUE 82, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, vous propose de participer aux Journées nationales de l'architecture. Durant ces trois jours, découvrez le travail mené auprès des scolaires du département à Nègrepelisse, dans la cuisine, centre d'art et de design, participez à des ateliers pédagogiques, conférences ou visites de chantier. Programme complet sur le www.les-caue.occitanie.fr, rubrique Tarn-et-Garonne.
Vous souhaitez préparer la transmission de votre entreprise? Reprendre une activité? Par où commencer? Qui peut vous accompagner? Quelles conditions réunir pour réussir? Le programme Octave est là pour vous aider. Ce service est proposé gratuitement grâce au soutien de l'Europe, de la région Occitanie, de BPI France et des chambres de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce et de l'industrie. Retrouvez-nous le 7 octobre à 18h à la mairie de Saint-Antonin, le 14 octobre à 19h à la maison de l'emploi de Caussade. Info sur quercy.octave.fr.
La ville de Castelsarrasin lance une nouvelle saison culturelle riche en style.
Venez découvrir la douce folie du baryton Omar Hassan, l'humour décapant de Constance, le rythme endiablé de Human Beatboxer Wab, la grâce des danseurs du ballet du Capitole. Et retrouvez des concerts, des spectacles jeunesse, du cinéma, des expositions, des conférences.
Partage, découverte, émotion, la saison culturelle à Castelsarrasin, c'est le spectacle vivant à deux pas de chez nous. Info sur ville-castelsarrasin.fr. Réservation sur festique.net.
Du 14 au 20 octobre, la ferme des Casaloux à Puy-Jourdes vous accueille pour sa foire au gras. Au programme, achat direct après abattage au tarif de la ferme, préparation de vos boîtes et bocaux, boîtes offertes. Profitez des promos pour l'élaboration de vos colis et coffrets cadeaux de fin d'année. Vendredi 18 octobre, 19h, repas. 20h30, concours de belote avec de nombreux lots. Belote, 15 euros par équipe. Inscription, repas plus belote à 15 euros par personne. Rendez-vous pour la foire au gras de la ferme des Casaloux à Puy-Jourdes. Renseignements au 06 15 26 33 60.
CFM à Caylus et dans les gorges de l'Aveyron, 99.4 et 89.2.
Le MAG du Tarn-et-Garonne aujourd'hui à propos de la 7e édition du festival littéraire de Paris-Eau. C'est Festilite. À partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche, donc du 18 au 20, c'est bien à Paris-Eau, tout au bout du Tarn-et-Garonne. Hein, vous êtes vraiment à la frontière aveyronnaise. Bonjour Aline Amo.
Bonjour Lisa.
Vous êtes venue aussi avec Lise Stanley. Bonjour Lise.
Bonjour.
Alors on entend bien la sonorité française-anglaise dans vos noms. C'est bien un des concepts de ce festival qui mélange un petit peu la culture anglaise et française à travers vos auteurs favoris. Festilite, donc un festival littéraire.
Oui, un festival littéraire particulier parce qu'il a été à l'origine initié par les Britanniques. On ne dit pas les Anglais, maintenant on dit les Britanniques. Et depuis maintenant 7 ans, cette alternance d'auteurs français et britanniques qui devient de plus en plus importante et qui permet aussi de rejoindre les deux communautés qui sont présentes dans la région. Voilà, alors cette année, effectivement, nous avons un auteur, Bernard Plossu, photographe internationalement connu, qui va présenter en français et en anglais donc toute une série de photographies. Et il a travaillé sur la relation entre l'écriture et la photographie dans le monde entier. Il a voyagé partout et il a sorti un livre qui s'appelle « Lire, écrire ».
Alors là, c'est très intéressant et c'est très facile, enfin beaucoup plus facile pour nous parce que c'est pas évident toujours d'avoir les séances en commun entre les Anglais et les Français. Donc là, on a quelqu'un, déjà c'est visuel, donc c'est très intéressant, mais aussi lui, il est bilingue. Donc il est capable de mener une séance en les deux langues. Donc ça va être intéressant pour les deux communautés.
Alors c'est un des auteurs que vous avez invité, auteur photographe, donc pour le coup, mais il y en a pas moins de deux fois sept, je crois, sept Anglais, sept Français.
Oui, c'est ça, ouais.
Qui vont proposer des interviews, des dédicaces, des rencontres, tout simplement, des moments de lecture assez intimes tout au long de ce week-end, à des endroits différents d'ailleurs de Parizeau. Vous allez occuper un peu l'espace dans le village.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment c'est un week-end où vraiment tout le village est très animé et tout pour le festival. Voilà. Donc on s'occupe de la salle de fête, la médiathèque, l'école, l'ancienne poste. Donc vraiment, voilà, il y a un peu partout.
Avec non seulement des rencontres, mais aussi un petit espace bibliothèque où on peut trouver des ouvrages, les coups de cœur des auteurs, ne serait-ce que ça.
Nous avons aussi une vente de livres d'occasion qui est très importante, ouvrages donc français et anglais. Et nous avons aussi des moments qui sont très agréables pour le public, c'est-à-dire on offre le thé dans des tasses en porcelaine à la britannique, avec des gâteaux qui sont préparés par des équipes de bénévoles. Et nous avons tout autour de nous beaucoup de personnes qui participent à ce festilite d'une façon ou d'une autre. Des personnes comme le Club des aînés, etc., qui organisent et qui participent. C'est pour ça qu'il existe.
L'école aussi, je crois, de Parizeau.
Oui, l'école de Parizeau participe. Une jeune auteure illustratrice, Julie Eugène, est venue et elle a travaillé dans toutes les classes de la petite section au CM2. Et elle sera présente le vendredi soir lors de la soirée d'ouverture qui est consacrée à l'ouverture de Festilite, mais aussi à la vente de livres pour la jeunesse de Julie Eugène et d'autres auteurs. Voilà. Donc les familles sont invitées le vendredi soir et les personnes de Parizeau. Et le samedi, nous démarrons dès 10h30 à la médiathèque par un auteur français qui s'appelle Philippe Georget. Et ensuite, nous aurons Lenka Onakova-Sivad à 11h30 qui, on vient de l'apprendre, est nominée pour le prix Renaudot. Donc on est très très fiers avec la Symphonie du Nouveau Monde, un livre évocateur. Et personnellement, c'est mon coup de cœur pour Festilite.
Lenka Onakova-Sivad, que j'ai reçu en entretien lundi dernier, un entretien qu'on peut écouter en podcast sur cfmradio.fr. Le coup de cœur chez les Anglais, Lise.
Oula, alors moi je les aime tous, mais on a deux, si je peux avoir deux coups de cœur, on a deux auteurs spécialement intéressants. On a un qui est un romancier qui est traduit en français aussi, qui s'appelle Patrick Gale. Donc il a écrit autour de 16 romans, dont certains sont traduits en français. Le tableau d'une exposition et Chronique d'un été sont les deux qui sont le plus connus en France, je pense. Et donc il est très très bien connu en France. Et on est ravis qu'on lui a convaincu de venir dans ce petit coin de la France rurale pour nous présenter son dernier livre. C'est super excitant. Et après, on a un historien qui s'appelle Andrew Lowney, qui est déjà venu il y a 3 ans et qui, depuis sa première visite, il est devenu comme un parrain du festival. Et lui, il vient de sortir une biographie sur un homme très connu en Angleterre, qui en fait est l'oncle du Prince Philip, donc quelqu'un qui est très proche de la famille royale, qui a été assassiné à 40 ans. Et alors sa biographie, en fait, c'est explosif. Ça relève beaucoup, beaucoup de secrets sur sa vie privée. Et donc ça fait beaucoup de bruit en Angleterre. Et encore une fois, on est ravis qu'il a accepté de venir ici.
C'est assez magnifique la façon dont les auteurs répondent présents à vos invitations, enfin, Paris ou quoi, je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais c'est un tout petit village qui est très beau, hein, faut le dire. Et je pense que c'est l'accueil que vous réservez à ces auteurs qui, bah, ils en parlent, hein. Les auteurs c'est un petit monde et... C'est comme ça, peut-être, que vous arrivez à convaincre les gens de venir.
Je pense que oui. Alors, pour les Anglais, je pense que c'est peut-être plus facile parce que déjà, c'est le fait de venir en France, la France rurale, ils sont enchantés de ça. C'est une ville typique, c'est beau, là, voilà. Donc, je pense qu'il y a tout ce côté-là. Mais aussi, oui, c'est le style et l'ambiance du festival.
Et le fait que, par exemple, François-Henri Soulier, qui est comédien homme de théâtre connu, nous soutienne depuis 2 ans, et cette année, il va faire quelque chose qui est formidable, c'est qu'il va faire les lectures pour les auteurs qu'il désire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un auteur présentera son ouvrage, François-Henri Soulier lira un extrait avec sa belle voix de comédien. Ce sont des ambassadeurs comme ceci qui nous permettent de progresser dans Festilite.
Alors, comédien et aussi auteur, hein,
François-Henri Soulier. Oui, bien sûr, oui. Il présentera son dernier livre, d'ailleurs.
Voilà. vous avez une petite surprise là pour la fin de cette édition de Festilite, donc festival littéraire, un concert.
Oui, mais juste avant, nous avons une présentation de Marcus Malt, Le Garçon, qui est un roman absolument fabuleux, un roman initiatique qui va présenter en musique, pour lequel il a eu le prix féminin en 2016, donc un grand auteur aussi pour Festilite. Viendra ensuite le chœur de Parisot à l'église à 18h15, qui nous cerise sur le gâteau, nous offrira le Requiem de Fauré.
Aline, vous faites partie du chœur de Parisot.
N'est-ce pas?
On le dit quand même. Des auteurs, il y en a quasiment toutes les heures. Ça va être un vrai défilé là à Parisot. On va pouvoir, pendant tout ce week-end, donc dès vendredi soir à partir de 18h et jusqu'à dimanche, le concert donc c'est à 18h15, le concert de clôture. Quasiment toutes les heures, on peut se déplacer, aller d'un endroit à l'autre à Parisot à la rencontre de ces auteurs, donc français, anglais. Bon, on peut faire le tour quand même, si vous n'êtes pas sectaire.
Oui, voilà. Oui. C'est très agréable de flâner dans le village, de visiter la vente de livres. Il y a aussi une exposition d'art. Donc il y a des œuvres d'art originaux qui sont inspirées par les livres qui seront présentés par le festival. Donc c'est pas les couvertures, hein. C'est vraiment des artistes français et britanniques qui se mettent volontiers pour créer quelque chose d'original sur l'inspiration du titre et une sommaire du livre. Donc les œuvres originales sont à vendre, mais aussi on fait les cartes postales.
Vous avez une très jolie plaquette qui a été, je ne sais pas, réalisée par qui, mais elle est vraiment jolie. Oui, un site internet festilite.com.
Voilà.
Lite avec deux T à la fin, telle la littérature. On peut retrouver tout le programme. C'est entièrement gratuit.
Tout à fait.
C'est important, ça, quand même.
Ça, c'est un principe phare du festival. Voilà, c'est que... tandis que, je ne sais pas pour les festivals en France, mais pour les festivals littéraires britanniques, il faut payer pour chaque séance. Et ça, on n'a jamais voulu le faire. Donc, on travaille beaucoup pendant l'année pour avoir les subventions, pour faire des choses, pour faire venir de l'argent, pour qu'on puisse tout offrir gratuit.
Merci pour ça. Je vous laisse le mot de la fin, toutes les deux.
Nous souhaitons un nombreux publics à Festilite, enthousiastes, et même si on n'aime pas lire, on peut venir écouter un auteur juste pour le plaisir.
Je pense que j'ai rien plus à ajouter.
Merci beaucoup, Listan.
Merci.
Aline Amo, donc membre de l'association Festilite. Donc on peut retrouver tout le programme, je le redis, www.festilite.com. C'est à partir de ce vendredi soir à 18h jusqu'au dimanche avec le concert à 18h15. Un immense choix d'auteurs, une sélection magnifique. Bravo à tous les bénévoles et à vendredi.